Bonjour et bienvenue à tous dans le mini-mac des stagiaires de l'animation d'été sur RDL 103.5. Romain, Léo, Inès et moi-même Manon, nous allons commencer avec l'alcool et ses dangers.
Nous allons vous parler de la chartreuse en particulier. À partir de 1840, les liqueurs sont commercialisées sous le nom de chartreuse. Mais la marque n'est pas encore déposée. En 1841, la recette du premier mois est égale à celle des ventes de l'année précédente. Le succès est rapide. Les liqueurs de chartreuse tiennent leur nom de l'ordre des chartreux qui tire le sien d'un lieu où Bruno et ses six compagnons décidèrent de s'implanter en 1804. En 1084, le désert de Chartreuse.
Dans le cadre de leur activité, les chartreux sont avec les médecins et théologiens Arnaud Villeneuve, ainsi que son élève Raymond Hulle, célèbres pour leurs études sur les plantes médicinales et pour avoir présenté un nouveau médicament, l'eau de vie, obtenue après distillation du vin. Les moines mettent alors en point plusieurs élixirs de jouvence appelés eau de vie, qui sont utilisés pour leur vertu thérapeutique.
La chartreuse est une liqueur fabriquée à distillerie d'Aguenoir entre deux guières. En Isère, en plein cœur du massif de la chartreuse, sous suspension des moines de la grande chartreuse liqueur à très haut degré d'alcool. Sa vente principale est ressource financière des chartreux.
La chartreuse, c'est plus de 4 siècles d'histoire depuis la remise du manuscrit par François Annibal, distrait en 1605. Il aura fallu plus de 150 ans de recherche aux moines chartreux pour percer le secret du manuscrit et fixer la recette de l'élixir végétal en 1764. Au début du 19e, le développement d'un nouvel élixir de table donnera naissance à la chartreuse verte et la chartreuse jaune en 1840. Depuis, ils ont su garder et transmettre leur précieux savoir-faire et aujourd'hui encore, ces recettes constituent l'essentiel des produits des pères chartreux.
Les principaux types de chartreuse, chartreuse jaune, chartreuse verte, élixir végétal, CDE, la grande chartreuse. Il existe plusieurs tailles de bouteilles de chartreuse, mais il ne faut pas oublier que boire de l'alcool peut être dangereux. Les risques d'alcool. À partir de quel âge pouvons-nous acheter de l'alcool ?
La vente d'alcool est interdite aux mineurs.
Nous allons vous passer une plage musicale.
I wonder if you can
Pourquoi faut-il en consommer avec modération ?
Il faut en consommer avec modération car une consommation excessive présente de nombreux dangers.
Quels sont les dangers de l'alcool sur le long terme ?
Les dangers de l'alcool sont le développement de maladies, cancer, maladies cardiovasculaires et digestives, maladies du système nerveux, troubles psychiques.
À partir de quand on devient dépendant ?
On en devient dépendant à partir de 17 verres par semaine.
Quand le foie ne supporte plus l'alcool.
L'hépatopathie, l'alcoolique, est une maladie hépatique due à l'abus d'alcool pendant une période prolongée. En règle générale, la quantité d'alcool consommée, volume, fréquence et durée déterminent le risque et la gravité des lésions hépatiques. Quels sont les premiers symptômes du cirrhose du foie ?
La cirrhose du foie est souvent découverte au cours d'un examen clinique alors qu'elle ne provoque pas encore de symptômes. Les symptômes de la cirrhose : fatigue, crampes musculaires, perte d'appétit, perte de poids, nausées, vomissements.
Avec les fortes chaleurs, il est déconseillé de boire de l'alcool. L'alcool peut être addictif comme des bonbons, un verre, puis un autre, encore, encore et encore. Puis, lorsque des parents sont alcooliques, cela entraîne souvent dans l'alcoolisme. Lorsqu'une personne qui a bu prend le volant, elle peut provoquer un accident. L'alcool peut entraîner la violence dans les familles. L'alcool peut provoquer des traumatismes, divorce, perte d'emploi. L'alcoolique peut se retrouver à la rue.
Tout ça peut conclure, faites attention. Et au revoir et bonne journée. La musique arrive, mais dédicace à ma mamie, ma belle-mère et à mon papy. Joyeux anniversaire, papy.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Avant de passer sur le sujet du jour, nous avons eu des informations complémentaires par rapport à notre mini-mac de mardi, qui parlait des pics à la foire au vin. Le commissariat de Colmar a précisé avoir eu 14 dépôts de plaintes, dénonçant d'Épicure durant la foire au vin. Cependant, aucune trace de drogue n'a été trouvée. De plus, dans la salle de concert, il y a eu beaucoup d'aiguilles retrouvées et aucune seringue. Le thème du jour est la phobie.
Une phobie est une peur démesurée et dépend d'un ressenti plutôt que de cause rationnelle d'un objet ou d'une situation précise. L'objet ou la situation qui déclenche la phobie est nommé phobogène.
Nous allons maintenant parler des phobies les plus connues. Par exemple, la phobie sociale est la plus dangereuse dans ce monde. Cette phobie est une peur associée à certaines activités sociales ou une situation où cette personne pourrait se sentir observée, embarrassée, humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. C'est une anxiété qui est très embêtante. Cela a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir une vie sociale et à s'intégrer. Selon le degré de cette phobie, on peut ne même plus pouvoir sortir tellement la peur et l'anxiété est présente. Cette phobie est dangereuse car elle peut conduire à un suicide. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent avoir de grosses crises d'angoisse, avoir des tremblements et avoir l'impression que leur cœur suffoque. L'hémétophobie est la peur du vomi. Si quelqu'un vomit, ça peut provoquer une grande anxiété, voire même des remontées et faire vomir la personne. La claustrophobie est la peur d'être enfermé dans des espaces confinés. Si un claustrophobe est confronté à sa peur, il peut faire de grosses crises de panique. Cette phobie est classé dans le trouble d'anxiété du DSM-5. Le DSM-5 est un livre diagnostiquant et statistiquement des troubles mentaux et des troubles psychiatriques.
La claustrophobie est la peur des bruits soudains et violents. L'ombrophobie n'oublie jamais son parapluie et a une crainte intense de la pluie et des orages. L'aérophobie est la peur de l'air et du vent. La nomophobie concerne les accros au téléphone qui angoissent de perdre, de ne plus avoir de réseau ou de batterie. Souvent, nous l'avons. La chérophobie, la peur de la joie et du bonheur. La bananophobie est la peur des bananes. La stassophobie, la peur de devoir de rester debout. Nous allons faire une petite pause musicale.
Nous allons parler maintenant des phobies normales et assez répandues. Aéromophobie, peur des objets pointus. Hélurophobie, peur des chats. Apiphobie, peur des abeilles. Arachnophobie, peur des araignées. Astraphobie, peur des éclairs. Maintenant, nous allons parler de quelques phobies insolites. La trypophobie désigne la panique des petits trous. Les patients qui en sont atteints sont effrayés à la vue, par exemple d'un morceau de gruyère ou de la mousse de shampoing. La lapophobie. L'apophobie est la peur panique des chauves. Les apolophobes peuvent aussi angoisser à l'idée de se dégarnir. La climaphobie. La climaphobie n'est pas la peur du changement climatique, mais des escaliers. La phobie peut prendre des
de telle proportion que le patient est incapable de monter ou descendre les marches. La carminophobie est la peur d'avoir des proutes. Le patient fera tout pour éviter de faire des petits proutes.
L'antophobie est la peur des fleurs. La sélénophobie, la peur de la lune. L'anuptaphobie, la peur du célibat. La coulrophobie, c'est la peur des clowns. La galmatorémaphobie, c'est la peur des statues qui prennent vie. La pédiophobie est la peur des poupées. La carpophobie, la peur des fruits. La cénocilicaphobie, la peur des vers vides. La basophobie est la peur de marcher. La pantaphobie est la peur de tout. Et l'hippopotomonstroesquipédaliophobie, c'est la peur des molons.
Alors là, nous allons finir ce reportage avec Phobie de Alexis A.K.
Messieurs, méfiez-vous de l'oiseau qui arrive par derrière.
Sans cesse à s'angoisser par ce qui se passait autour de lui. Parmi mille phobies, l'en avait une singulière. Une qui faisait qu'il ne dormait guère plus de 3 heures par nuit. Qu'un jour un autre vint et le saisisse par derrière. En chat comme il voyait un volontaire voleur de vertu, le regard vers l'arrière. Si d'aventure il marchait dans la rue pour aller consulter un de ces fameux spécialistes en maladie dont les symptômes sont que les gens sont tristes. Je m'en viens aujourd'hui faire appel à la médecine, car j'ai peur du coup de bine du voisin de ma voisine. Je ne sais pas ce qui fit, car si l'angoisse règne, mais dans la terreur je vis que par derrière l'on me prenne. Comme un de ses amis, un de ses soirs depuis lui narra l'histoire de celui qui se fit retourner 628 fois. Il fut pris de panique et par tous les saints il jura que par derrière jamais on ne le prendra. Je m'en viens aujourd'hui faire appel à notre église pour qu'elle vienne à mon aide quand peu à peu je m'enlise dans la marée montante et de façon très maligne de la peur du coup de pine du voisin de ma voisine. Médecins et hommes d'église furent unanimes, trop fort était le traumatisme et notre homme était trop pusillanime. Il faudrait qu'il y passe car comme tout un chacun sait, on ne guérit que des angoisses ce que l'on connaît. Je m'en viens aujourd'hui faire appel à la voyance n'ayant d'autre solution car ni l'église ni la science de ma phobie démoniaque ont trouvé quoi me dire. Je paierai donc je le prie pour qu'on me parle de mon avenir. J'ai consulté la boule, les cartes et le marc de café. J'ai vu le grand marabout qui a lu dans les os de poulet. Or tout nous porte à croire et cela sans aucun choix que coup de pied un beau jour tu te prendras. Je m'en viens aujourd'hui faire une petite annonce à laquelle oui j'espère trouver une réponse car je recherche un guide à ma tempérament modéré pour me retirer mon angoisse et par là même ma virginité. Mes médecins, évêques et ma j'avais menti car même après quelques semaines personne à l'annonce ne répondit. Si bien que d'une phobie bien vite il rencontra la solitude de celui qu'on ne désire pas. Je m'en vais aujourd'hui vivre parmi les gorilles car ici nul ne m'aime et je dois refaire ma vie au milieu de créatures qui ne m'auront pas menti et pourront jour après jour satisfaire toutes mes envies. Mais après 17 ans de bonheur dans la jungle africaine, il se prit à regretter ceux de l'espèce qui était la sienne. Ainsi du fond de la forêt l'on entend parfois le cri de l'homme qui désire ce qu'il n'a pas. Cesse à m'angoisser par tout ce qui se passe autour de moi. Parmi 10 000 envies, l'en est une qui me désespère. Une qui fait que je ne dors plus guère que quelques heures par mois. Qu'un jour un autre vienne et me chérisse comme un frère.
Aujourd'hui, nous allons parler des feux d'artifice et interviewer Gilles Miclot, artificier à la société Brésac Artifice.
Les origines exactes de la poudre noire font débat. En 1044, le Wujing Zhongyao proposa une recette associant soufre, salpêtre et d'autres sels pouvant prendre feu et être lancés depuis des catapultes.
En 1240, les Arabes acquirent des connaissances sur la poudre à canon et ses utilisations en Chine. Un Syrien nommé Hassan al-Khama a écrit sur les roquettes, les feux d'artifice et d'autres incendiaires. En utilisant des termes suggérant qu'il tirait de ses connaissances d'autres sources chinoises, telles que ses références aux feux d'artifice, comme fleurs chinoises.
Deux siècles plus tard, Marco Polo rapporte la poudre noire en Europe. Dans les années 1235 à 1290, Roger Bacon, philosophe et alchimiste anglais de renom, étudie la poudre noire.
En 1572, des feux d'artifice sont tirés devant Élisabeth I. En France, le premier vrai feu avec poudre semble avoir été organisé en 1606, à l'occasion du baptême du futur Louis XIII.
Les deux guerres mondiales sont l'occasion de nouveaux progrès pour la chimie industrielle et pyrotechnique.
À partir des années 1970 et 1980, de nombreux groupes de rock et d'autres spectacles commencent à utiliser des feux d'artifice lors de leurs concerts, en plus d'autres effets pyrotechniques. Kiss est souvent reconnu comme le premier groupe à avoir utilisé ce genre d'artifice.
Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans
Nous allons interviewer Gilles Miclot. Donc la première question c'est, quelles sont les précautions à prendre pour l'utilisation de feux d'artifice ?
Oui, bonjour. Les précautions, c'est surtout que le public et les spectateurs n'aient pas de retombées incandescentes. C'est surtout la grande précaution au niveau du public.
Peut-on utiliser des feux d'artifice quand il pleut ?
Oui, bien sûr, quand il pleut, il n'y a pas de problème. On les protège, on met des sacs plastiques autour, on les protège de l'humidité.
Faut-il une formation pour manipuler des feux d'artifice et si oui, laquelle ?
Alors, il y a plusieurs familles en feux d'artifice. On va avoir quatre grandes familles, le F1, le F2, le F3, le F4. Le F1, le F2 et le F3, il faut avoir plus de 18 ans. Et la famille des F4, il faut avoir donc une formation de soit de 2 jours ou de 5 jours et avoir un agrément préfectoral aussi. Et après, on peut travailler et fonctionner avec ces produits.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
30 ans.
Êtes-vous libre de faire ce que vous voulez pour la ville ou vous devez suivre des indications ?
Alors, sur certaines communes, on est libre de faire ce que l'on veut. D'autres communes, on aura des indications. On a de plus en plus des feux musicaux. Donc, c'est les communes qui vont choisir le thème musical. Ils peuvent nous demander d'autres propositions. Sur un mariage, on va essayer d'avoir peut-être les couleurs de la mariée, faire des effets un peu spéciaux.
Est-ce que faire un show de feu d'artifice demande beaucoup de travail ?
Oui, on a beaucoup de travail en amont. Il y a la préparation du feu, donc le choix de la bande musicale. Sur la bande musicale, on va coller des produits. Ces produits, par la suite, on va aller les chercher, on va les préparer. Et après, ça va être transporté à l'endroit où on va monter le feu. On va installer le feu, on va tirer le feu. Et bien sûr, après le feu, on va démonter et nettoyer tout le coin.
Quels sont les risques dus à la sécheresse ?
Les risques dus à la sécheresse, c'est le feu. Donc, des départs de feu peuvent être voulus.
Y a-t-il des mesures qui ont été prises contre ça ?
Oui, dans certaines préfectures, aujourd'hui, on a des interdictions de tirer des feux.
Quel a été votre plus grand show ?
Dans mes plus grands shows, il y a eu Annecy, c'est un des plus gros feux d'Europe. J'ai été un petit peu sur les cinq planètes, donc j'ai eu un feu qui était sympa, c'était Macao. Et puis après, j'ai fait des shows style Johnny Hallyday, ça m'a fait plaisir d'avoir cette bande avant.
Combien de temps prend l'installation d'un feu d'artifice ?
L'installation d'un feu d'artifice dépend du budget, donc du volume de produits. On peut avoir une installation qui va durer une heure, aussi bien sur des grands spectacles, on peut aller jusqu'à 8 jours de travail.
Combien de personnes travaillent avec vous ?
Là, c'est pareil, on peut avoir très peu de personnes ou plusieurs. Comme cas de figure, notre entreprise Brezac Artifice, on est une quarantaine à l'année. Sur le 14 juillet, on est plus de 1000 salariés.
Le vent joue-t-il un rôle important ?
Oui, le vent joue un rôle très important, puisque le produit avec le vent va se déplacer. Et en France, au-dessus de 50 km/h, il est interdit de tirer un feu d'artifice.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci
et
à
on
vous.
Se retrouve demain à la même heure pour un prochain mini-mag avec les stagiaires de l'animation. Et merci Gilles de nous avoir écoutés.
Merci à vous.